Maintenant,
Et bonjour à toutes et tous, j'ai le bonheur d'être en face de Laurent Escoffier. Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va bien ?
Eh ben très bien.
C'est le quatrième jour de salon, les cernes sont à peine visibles, donc ça va quoi.
C'est vrai, on a été raisonnable cette année.
Alors Laurent, tu es l'auteur d'un jeu qui s'appelle Columba. Tu n'es pas l'auteur seulement d'un jeu qui s'appelle Columba, mais on va commencer par celui-là. Je vois que donc, l'auteur c'est Laurent Escoffier et je viens d'entendre que Sylvie Eder n'était pas inconnue, l'illustratrice de cette boîte.
Et non, parce qu'avant de faire ce jeu, nous avons fait deux enfants.
Ah oui, donc vous êtes entraîné avant de faire la boîte de
voilà.
jeu.
Ce qui nous a permis d'avoir des testeurs à la maison.
Oui, c'est pratique d'être autonome.
Et qui ont d'ailleurs qui ont été très utiles sur les derniers réglages.
D'accord.
Et c'est la première fois d'ailleurs que nous collaborons sur un jeu.
Oui.
C'est à l'initiative d'ailleurs de Serge Combat, donc le patron de Ludocom, qui avait croisé Sylvie. Parce qu'en plus d'être illustratrice, elle est aussi artiste intermittente du spectacle et elle travaille dans le spectacle de rue. Donc elle était passée près de chez, dans le Tarn-et-Garonne, enfin près de Toulouse. Et donc Serge Combat l'avait vue en action sur un échafaudage à 6 mètres du sol en train de peindre en direct.
Voilà. Donc il s'est dit si elle sait faire ça, elle sera dessinée sur une boîte de jeu.
Voilà, donc exactement.
Une bonne manière de faire de l'embauche. Donc Laurent, tu es l'auteur de Columba. Est-ce qu'on peut repasser sur le fonctionnement de Columba ? Qu'est-ce que c'est ?
Le principe, donc, c'est un jeu de tuiles avec comme caractéristique que c'est un jeu de recouvrement. Donc un peu à la manière de Bloom que j'avais fait il y a quelques années avec David Franck. Cette mécanique, donc, on fait se chevaucher donc, des cartes et on capture, là en l'occurrence, on capture les oiseaux qui sont recouverts. Donc ça c'est le principe de base de tuiles. La particularité c'est qu'à 4 joueurs ça se joue à 2 contre 2 uniquement par équipe. Et ce qui amène pas mal d'interactions et pas mal de un côté assez sympathique et assez original je pense pour un jeu de tuiles comme ça.
Mais je vois qu'il y a des petits genre plateaux individuels ou quelque chose comme
on
ça. Et puis on a des
un petit plateau individuel pour gérer son élevage de pigeons.
Oui.
Et de faucons, parce que donc c'est un jeu sur le thème des pigeonniers et de la fauconnerie au XVIIe siècle. Âge d'or hein, des pigeons, et on ne le dira jamais, on ne le rappellera jamais assez aux joueurs qui
trop peu de gens l'ignorent.
Voilà, souvent étonnés par ce thème original.
Absolument.
Et donc voilà, c'est la.
Et donc on a chacun un petit pigeonnier. Ça se joue à 4 joueurs et on a chacun un pigeonnier.
On a chacun plusieurs pigeonniers à bâtir.
Ouais.
Et il va falloir prendre les bons territoires, les défendre contre les faucons, les attaques adverses, et être en fin de partie celui qui a le plus de pigeons autour de ses pigeonniers. Et lorsqu'on est deux, donc, on fait alliance et on est alliés, on s'entraide, on se passe des pigeons, enfin on se permet de capturer les pigeons sur ses propres domaines, etc. Parce qu'on a des commandes, on collecte des tuiles avec lesquelles on remplit des objectifs qui permettent donc d'élever des faucons et de faire très très mal aux autres.
Voilà, donc c'est quand même un jeu un peu compétitif ou...
C'est un jeu assez méchant, avec un petit côté assez
rugueux.
Oui.
Voilà. Alors comment est venue justement cette passion de la fauconnerie au XVIIe siècle ?
Eh bien il s'agit c'est une passion assez tardive puisqu'elle date d'un concours organisé dans le Tarn-et-Garonne par le festival du même nom. Et donc dont Serge est l'un des
organisateurs.
Et c'était la deuxième année, le concours portait justement sur le thème des pigeonniers.
C'est dans cette optique-là qu'on a vu le jeu Ariala arriver aussi.
Voilà, j'avais fait d'ailleurs le concours l'année d'avant. Le thème était le canal du Midi, avec le segment plutôt canal de Garonne, entre Toulouse je vais écorcher les noms, mais enfin bref, et Montèche à peu près, ou Moissac, je ne sais plus. Et donc là, c'était le deuxième concours sur un thème aussi local. Et la deuxième année, voilà, j'ai remporté le prix et donc le jeu est sorti cette année.
C'est un festival justement qui se veut promoteur de jeux ou ça c'est une des activités ?
Oui, c'est un festival itinérant dans le département du Tarn-et-Garonne. Et chaque année, donc, il propose un concours sur un thème donné. La dernière année, c'était... L'année d'après, c'était sur les vins du Sud-Ouest. Cette année c'était les Templiers, mais il n'y aura pas de jeu édité parce que le jury n'a pas trouvé son compte dans les jeux proposés. Voilà. etc.
Ok, alors Laurent, donc ça c'est ton actualité directe, mais il y a une actualité aussi qu'on a mis du temps à voir, mais qu'on est ravis d'avoir finalement joué. Et en plus, il y a de la bonne communication autour, parce qu'on voit des t-shirts partout avec des dessins, avec des pixels. En fait, tu es l'auteur de Pix.
Oui, avec David Franck. Donc, voilà. Oui.
Ça, c'est une idée en fait que j'ai eu l'occasion de boîte-caster. C'est un verbe déposé presque, il sera bientôt dans le Larousse, avec Malcolm Braff, mais en 2000, lors du tout début.
Oui, au tout début, lorsque le jeu était en cours de réglage, et il a mis quelques temps à sortir. Oui, il y a eu des petits problèmes à la fois de... On ne savait pas trop en combien de langues on allait le faire, donc ça a traîné un peu. Il y avait aussi des problèmes de fabrication, ça a été assez compliqué.
Parce qu'en fait... Bon, l'histoire, c'est qu'on va dessiner avec en mode 8 bits pour les plus informaticiens d'entre nous, c'est-à-dire avec quelques carrés noirs et quelques carrés, il y a un carré rouge, on va essayer de faire des dessins et faire deviner des dessins aux autres.
Voilà, c'est un jeu de dessin où on joue à dessiner moins que les autres pour pouvoir leur passer devant au moment de la présentation du dessin. Donc il y a une priorité, c'est une course au minimalisme, on va dire. Et il faut en faire le moins possible. Oui. C'est vraiment un jeu pour fainéants, mais en même temps, il faut quand même que ça marche à l'arrivée.
Oui, c'est ça. Parce que bon, fainéant, ça veut dire trouver quand même la bonne méthode d'utiliser les bons pixels. Comment est née cette idée ?
C'était une idée qui est née à Essen, c'était en 2008, je crois. C'était né dans le train retour avec David. On avait joué la veille à un jeu du même type, un jeu d'émetteur-récepteur, comme ça, un jeu dessine et tu devines, avec une contrainte là qui était très différente. Je me souviens qu'à la fin de la soirée, Sébastien Pochon, qui faisait partie des joueurs, avait dit « mais c'est dingue qu'on arrive encore à faire des jeux sur ce principe-là ». C'est dingue, c'est à se demander, il faut peut-être s'y réfléchir, il y a sûrement encore des trucs à trouver, parce qu'il y a tellement qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ouais. Et du coup, ça a dû faire tilt, parce que donc, c'était le dernier jeu auquel on avait joué le samedi soir, on a pris le train le lendemain matin, et dans le train, tout de suite, en quelques heures, en quelques minutes, cette idée de pixel est arrivée.
D'accord. Tout suivi, mais c'est pas grave. Ok, et donc ça, c'est... Ah, ok, d'accord.
Pigeon, pixel, tout ça,
tout ce qui commence par pi.
Voilà.
Et donc, puisque vous étiez en contact avec Sébastien Pochon à ce moment-là, ça s'est fait directement de présenter le jeu à lui.
Effectivement, naturellement, du coup, j'ai pensé à lui parce qu'on avait, c'est un peu lui quelque part qui avait été à la source de cette peut-être. Hein, je sais pas. Après, c'est le mystère du cerveau.
Voilà.
Et du coup, c'est vrai que j'avais l'occasion de descendre. Pour un vernissage, je crois, à l'époque, c'était... Il lançait Kim Aloé, où il y avait un vernissage au musée suisse du jeu. Et du coup, j'ai profité pour amener le premier proto, là, qui avait quelques semaines. Et ils ont été assez rapides à donner une réponse. Au bout de... Enfin, 2 mois après, on a échangé un peu sur... ils ont décidé de le sortir.
Ouais,
et c'est après que ça a mis un peu de temps, mais...
Oui, bon, parce qu'il y avait aussi des contraintes matérielles, hein. Il fallait faire des planches. Disons qu'on pouvait faire le jeu apparemment très rapidement, mais avec un prix de vente absolument incroyable.
Ah oui, il avait même été annoncé quasiment 2 ans à l'avance,
voilà.
Dans JSP. Oui. qui était vraiment très en avance sur l'info.
Oui, c'est des visionnaires. Donc, Laurent, comment est-ce que tu en es venu à faire des jeux ? C'est-à-dire que tu as sans doute, comme je dis, barboutade, un vrai métier. Et donc, il y a un lien, il y a un moment où tu te mets à créer des jeux.
Bah, c'est arrivé pendant mes dernières années d'études, en fait. Je suis graphiste de formation, j'ai fait les arts déco de Strasbourg. Et il se trouve qu'en fin de cycle, on a un diplôme à passer et que j'avais choisi comme l'un de mes sujets, la création, le design, le packaging, la mise en page de la règle, etc., d'un jeu de société. Voilà.
J'étais
déjà joueur à la base, oui. Et l'année d'avant, j'avais fait un jouet, j'avais vu un concours affiché dans le hall de l'école, un concours du musée de la Poste, j'avais fait un jouet pour un jouet qui avait été édité par Villac. Donc j'avais gagné le concours d'un concours d'objets, création d'objets sur un thème postal, là, c'était voilà. Et du coup, j'ai dû l'année d'après regarder ce panneau, parce qu'il y avait souvent des concours affichés, j'ai vu le concours de Boulogne.
Oui.
Du coup, comme j'avais un jeu, je l'ai envoyé à Boulogne et il avait gagné. J'avais gagné celle-là, c'était en 92. Donc vous voyez, c'est même, je ne sais pas, 11 ou 12, hein, bref. À vérifier le dé d'or, 92. Ouais. Donc c'était, et bah, à partir de là, j'ai trouvé ça sympathique. Donc je m'en suis tenu à ce rythme de concevoir un jeu par an pour l'envoyer à Boulogne.
C'est ça.
Voilà. Et c'est arrivé comme ça. Donc mon métier ne me permettait pas d'avoir beaucoup plus de temps pour développer, régler, etc. Plus d'un jeu par an. Ouais. Mais c'est un rythme que j'ai à peu près tenu jusqu'à même à Columba, parce que c'est le dernier concours auquel j'ai participé, c'était Columba. Ouais. Et c'était il y a 2 ans. Et maintenant, c'est vrai que quand j'ai une idée de jeu, avant qu'il y ait un concours, je croise plus facilement les éditeurs, parce que je les connais, on se côtoie depuis toutes les années où je traîne dans les festivals, etc. Du coup, j'ai plus forcément besoin de cet outil très très formidable qu'est le concours de Boulogne, quoi, qui permet de donner une visibilité à des gens comme moi qui sont des catastrophes commercialement parlant, en présentation.
Jusqu'à présent, ça se passe pas trop. En parlant de jeu présenté à Boulogne...
J'ai rien à vendre.
Ah, c'est ça. En parlant de jeu qui a été présenté à Boulogne, justement, il y a un jeu comme ça qui perdure à travers les années, avec des fameuses bouches ouvertes dans lesquelles on doit déposer de la nourriture. Tu en as profité pour dire, messieurs, dames, je suis à ASL, j'ai le jeu avec moi, ce serait peut-être pas mal si on trouvait un moyen de l'éditer. C'est quoi ce jeu ?
J'ai découvert la puissance de Facebook, d'ailleurs, en mettant... C'est un jeu qui avait gagné en 2007. Qui avait été tout de suite qui avait intéressé beaucoup de gens à l'époque. Il y avait Zor, il y avait Ravens, il y avait Abba, qui avait fini par dire je le veux, je le prends. Ouais. Dites aux autres qu'ils ne l'auront pas, ouais. Ce que j'ai fait.
Ouais. J'aurais pas dû.
Honnêtement, oui. Les autres m'ont dit bon ben bravo, ils m'ont renvoyé le proto, et puis Abba, 6 mois après, m'a dit ben non, finalement c'est trop cher à fabriquer, ça va pas rentrer, donc on va pas le faire.
Tu as l'habitude de faire des jeux qui sont trop chers à fabriquer en fait.
Mais c'est vrai que je pense généralement pas tout de suite à l'éditabilité. Peut-être que ça va changer un peu là, mais à l'époque du concours, en tout cas, d'autant plus au concours de Boulogne, qui était un jeu qui primait vraiment les idées,
et
pas du tout l'éditabilité. D'ailleurs, j'ai été primé 6 fois à Boulogne, et aucun des jeux... S'il y a un seul jeu qui a été édité, en fait, enfin, non, plus depuis, parce qu'il y a eu Bloom, mais disons que ça en fait que 2 sur les 6 qui ont été édités, alors que j'avais envoyé d'autres jeux d'autres années qui n'ont pas gagné à Boulogne, mais eux qui ont été édités, comme Tyrus, ou comme Pogo, par exemple, qui n'avaient pas du tout marché à Boulogne ces années-là. Quoi.
Et le jeu, justement, dont on parle, qui est inéditable chez Abba, c'est quoi ?
Le jeu
Abba.
Le jeu Abba, donc, c'est un jeu pour enfants, famille. C'est un jeu de où il va falloir nourrir des animaux sous forme, chaque animal est prenant la forme d'une carte avec un petit relief, donc la bouche est un peu en creux, et on va lâcher des cubes en bois, des petits cubes en bois au-dessus à l'aveugle.
C'est un jeu de cubes en bois.
C'est un jeu pour cubes en bois, voilà exactement. C'est le jeu qui va réconcilier enfin ces deux mondes. Le monde du party game et le monde du cube de gestion. Voilà.
Et donc ces animaux sont sur la table, on doit les nourrir, mais il y a plusieurs manières de les nourrir, il y a des challenges ou je ne sais quoi.
Il y a, on a une mangeoire, il y a des animaux qui sont herbivores, d'autres carnivores, il faut prendre les cubes verts, il ne faut pas se tromper de bouche. Dans la mangeoire, ça a tendance à se mélanger au fil de la partie, donc ça devient un peu chaotique. Et puis il y a un ogre surtout, il y a un ogre au milieu qui ramasse tout ce qui tombe à côté. Et lorsque l'ogre, qui sera peut-être remplacé par un animal féroce, enfin vraiment quelqu'un de pas sympathique, a la bouche pleine, tous les joueurs ont perdu. Donc il faut quand même arriver.
Comment ça se fait que...
C'est de la semi-coopération, parce que il faut être... Dès qu'un animal est entièrement nourri, le joueur qui vient d'y arriver donc récupère la carte de l'animal, on resserre les rangs et on continue. Et
Donc... Et comment est-ce qu'on nourrit ces animaux ? Parce que c'est ça.
Ah oui,
quelle est la mécanique ?
Voilà, la mécanique, c'est qu'on a un mini plateau devant soi que l'on se passe, dans laquelle figurent des cubes rouges et des cubes verts. Et avec la pointe des doigts, donc on doit. Les cubes sont bien à plat, on les prend avec le bout des doigts, vous voyez, on crée en forme de. Enfin, ça fait des formes de plateforme, on ne prend pas à pleine main, on prend juste avec le bout des doigts. Ce qui parfois fait que ça rip, ça gicle un peu partout, il y en a un peu plein la table. On a un masque, surtout parce que pour la petite histoire, l'ogre qui est dans le zoo éteint la lumière chaque fois que les gardiens viennent nourrir les bêtes. Et donc on peut s'entraîner un peu avant, faire le geste, et après il faut piocher au bon endroit dans la mangeoire, tendre le bras de la bonne distance et lâcher sur les bonnes bouches. Voilà, sachant qu'il y a des bouches plus ou moins petites selon les animaux, avec des effets, des cartes qui peuvent avoir des effets amusants ou de... Voilà, enfin voilà, ça envoie du cube, ça envoie du cube.
Ça envoie du cube. C'est une belle expression, ça. Ok, mais donc ce jeu est toujours en attente, donc l'annonce est ouverte.
Oui, après ABBA, il y avait un autre éditeur dont je ne citerai pas le nom,
non.
Mais je les aime beaucoup. Ils nous viennent de Belgique.
Ils se reconnaîtront.
Ils se reconnaîtront. qui avait été intéressé et puis qui renonce pour des problèmes de distribution et de cohérence de gamme aussi. Et de, voilà, parce que le secteur du jeu pour enfants, c'est quand même un peu spécial par rapport au reste. Et il faut être assez costaud pour arriver à tenir une gamme. Et eux, ils n'avaient pas le cas. Ils s'attendaient un peu que Asmodée donc, lance leur train de jeux pour enfants. Et là, bon, finalement, c'est plus compliqué que voilà. Voilà. Mais j'espère bientôt.
Alors tu disais, tu essaies de faire un jeu par an parce que bon voilà, la famille, le métier, tout ça, qu'on a toujours pas abordé. Mais c'est quoi le prochain? C'est quoi celui de l'année prochaine?
Le prochain, il y a plusieurs idées en route. Le prochain sera qui est déjà bien lancé. Ça sera un jeu qui va peut-être sortir conjointement chez Libellude et chez Blue Orange Games aux États-Unis et Libellude en Europe. Qui sera un jeu aussi assez familial, un jeu aussi d'estimation à distance de choses à faire.
Genre, une mécanique ou un thème ?
Une mécanique, là ça sera, le thème, il y aura différents thèmes en fait, ça va être des séries de mini-aventures sur des thèmes donnés, mais le principe disons c'est qu'on trace des traits sur des feuilles transparentes, traits qui doivent, une fois que la feuille transparente est superposée à une illustration, le trait doit remplir certaines conditions. Bon, en gros, il faut tracer un chemin, il ne faut pas rentrer dans les murs. Donc, à distance, on va faire le trait et on saura vraiment si on ne s'est pas pris un mur que lorsqu'on aura posé notre feuille sur le dessin, vous voyez.
Et quelle est donc l'étincelle qui a généré cette idée rocambolesque dans la tête de Laurent Escoffier ?
Et ben, c'était avec David Franck et c'était dans le même train. Donc, il faut vraiment retrouver ce train.
Dangereux,
le train Essen Paris 2008. C'était,
voilà. Même train, vraiment.
C'était le même train, on a eu cette idée-là, juste après ou avant Pix, je ne sais plus, on avait commencé par Pix parce que c'était celle qui semblait la plus rapide,
oui.
La plus rapide à finir et à régler en tout cas, d'ailleurs c'était réglé assez vite, on a,
oui.
Voilà, voilà, et on a vraiment, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps ni l'un ni l'autre, on ne travaille vraiment bien que lorsqu'on se voit, David est à Nantes, je suis à Paris. Et pour le jeu en question, le dernier, là, qui avait pour nom de Proto Nautilus, mais qui ne s'appelait pas du tout comme ça. D'ailleurs, il y a un autre jeu qui sort là.
C'est trop tard.
Chez lui qui sort. Et on s'était vu à Toulouse en 2012, là, début 2012. Et c'est là qu'on a enfin pu finaliser, concrétiser, commencer à tester et voir que ça marchait. Et donc, après Toulouse, j'ai pu faire un proto et que David a présenté à Partenay. Et c'est là qu'on a trouvé... Des éditeurs.
Et donc quel est donc le vrai métier de Laurent Escoffier ?
Je suis graphiste, directeur artistique dans la publicité pendant 15 ans, toujours, et là maintenant freelance depuis 5 ans, donc toujours directeur artistique. Je travaille aussi à deux avec un rédacteur, j'ai un rédacteur donc, dans le métier, donc j'aime bien marcher en binôme. Et puis voilà.
Merci Laurent Escoffier.
Merci beaucoup.
À bientôt. Podcast.
Merci.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.